Chapitre 33. Les aventures de Roxane en voyage, elle, vivre, aimer, aboyer. Il existe des dizaines de milliers d'hôtels partout en France, mais assurément aucun comme celui-ci. J'ai dormi dans des centaines d'endroits différents, des très chics, des très kitsch, des très bourrés de punaises de lit, mais jamais dans un endroit comme celui-ci. Ce qui m'a attiré au départ vers cet hôtel, c'est son nom. Au meilleur ami de l'homme, que j'ai trouvé original. Ce qui m'a intrigué ensuite, c'est son concept. Au milieu des chambres classiques à louer, des chiens à adopter. Je connaissais les bars à chats, mais pas encore les hôtels à chiens. Et comme je suis curieuse, j'ai réservé une chambre en ligne. L'établissement est idéalement situé dans une petite ville à taille humaine, proche de la mer. Le bâtiment, qui compte une trentaine de chambres, date des années 1920 et a été entièrement rénové par l'actuel propriétaire quand il s'y est installé il y a une quinzaine d'années. Le résultat est chaleureux, parquet de qualité, mobilier en bois clair, plantes vertes, rideaux colorés. À mon arrivée, j'étais accueillie par le directeur, Frédéric, et par sa fille, Alban, presque 13 ans. Parce que « Au meilleur ami de l'homme » est une aventure de famille. Frédéric a acheté l'hôtel, Alban a recueilli un premier chien. Petit à petit, il y a eu de plus en plus de chiens, un à l'entrée de chaque porte de chambre, et l'hôtel a fini par changer de nom. J'ai ainsi fait la connaissance d'Oxford, le chien qui boite parce qu'une cliente lui a écrasé la patte avec sa valise. Il y a aussi Opal, la chienne qui refuse d'avancer en laisse et qu'il faut traîner sur le sol. Et il y a Neige, une petite boule de poils blanches, un loulou de Poméranie qui se faufile derrière vous à peine la porte de chambre ouverte et saute sur le lit pour s'y lover, espérant que personne ne l'a vue. Si vous comptez la laisser faire en dégainant le traditionnel, c'est juste pour cette nuit. Sachez que ça ne marchera absolument pas. C'est d'ailleurs pourquoi il est inutile de chercher Neige à votre arrivée à l'hôtel, elle n'est plus disponible. Elle a depuis peu été adoptée. Dans un hôtel, on juge d'abord la propreté, puis le confort de la literie, les saveurs du buffet du petit-déjeuner, mais on ne pense jamais aux gens qu'on va y rencontrer. Pourtant, là se trouve parfois l'essentiel. Au meilleur ami de l'homme, j'ai croisé des personnes incroyables. Un septuagénaire qui collectionne les cravates. Plus elles sont colorées, mieux c'est. Un quadragénaire, investi et patient. Une adolescente apprentie comédienne de talent. Mais surtout, je m'y suis retrouvée moi. Le plus, l'accueil, l'omelette aux champignons du maître des lieux et bien sûr les chiens. Le moins, quand on y a séjourné, on ne peut plus en repartir. Le prix, 80€ la nuit avec le petit déjeuner. 150€ pour l'adoption d'un pensionnaire canin. L'adresse, au meilleur ami de l'homme, 564 avenue du Cœur à Cœur, 13240, Oulchy-les-Embruns. Lorsque je suis arrivée au meilleur ami de l'homme, je leur ai promis que je rédigerais un billet sur l'hôtel avant d'en partir. J'ai réalisé il y a quelques jours que je ne l'avais pas fait. J'y ai donc remédié. Mais en relisant ce que je viens d'écrire, je prends conscience qu'il est vraiment très difficile de parler d'un endroit où l'affectif est venu tout chambouler. Eh oui, l'affectif. Quand je l'ai découvert, il n'était pas dans mes intentions de m'attacher à ce lieu plus qu'à un autre. C'était même tout le contraire, à vrai dire. À l'époque, je ne faisais que fuir et mettre tout à distance, croyant naïvement que cela allait me protéger de la souffrance. Pourtant, c'est ce qui est arrivé. Je me suis attachée. À une petite chienne squatteuse de lit, grignoteuse de baskets et de fils électriques, à un septuagénaire adepte des cravates extravagantes, marié et amoureux de sa femme qui a oublié son existence, à un quadragénaire qui élève seule sa fille et cuisine des crêpes pour le petit déjeuner, et à une adolescente pleine de vie qui saute plus qu'elle ne marche et s'extasie devant toutes les baskets des boutiques avant qu'elle ne soit convoitée à leur tour par la petite chienne précédemment mentionnée. Je me suis attachée. Et même si je ne le regrette pas, ça me terrifie. Cette peur de la perte de l'autre ne me quitte pas et je dois lutter pour ne pas de nouveau prendre la fuite, mettre à distance tout ce qui pourrait être source de souffrance un jour. J'ai repris mes explorations des régions françaises avec beaucoup d'envie et de plaisir. Je m'absente quelques jours, parfois quelques semaines, puis je rentre au meilleur ami de l'homme, que je n'ose encore appeler mon chez-moi, bien que cela y ressemble. J'ai quitté la chambre 116 pour intégrer une suite de l'hôtel plus spacieuse. Cela m'a permis de rapatrier quelques-uns des cartons entreposés chez ma mère depuis mon déménagement. Frédéric me rappelle parfois en plaisantant qu'il y a une place pour moi chez lui, mais il n'insiste pas. Notre relation est douce et j'essaie chaque jour un peu plus d'accepter, sans culpabiliser, ce bonheur nouveau. Je m'apprête à publier mon billet sur le blog lorsque quelqu'un frappe à ma porte. Neige, qui dormait jusque-là à pattes fermées sur mes genoux, sa nouvelle place de prédilection lorsque je travaille mes textes, est soudain en pleine forme et saute sur le sol pour aller accueillir dignement le visiteur. Alban ? M'exclamai-je en ouvrant la porte, surprise de voir l'adolescente qui, à cette heure, habituellement fait du roller avec ses copines. Il y a un souci ?
Non. Enfin, je peux te parler ?
Mais oui, bien sûr, entre. Ça n'a pas l'air d'aller. Je m'efface derrière la jeune fille, qui hésite un instant avant d'aller s'asseoir en tailleur sur mon lit, calant ensuite un oreiller sous son menton.
T'es une fille, pas vrai ?
Commence-t-elle timidement.
Oui.
Il me semble que oui. Répliquai-je désormais plus amusée qu'inquiète, et devinant sans mal ce dont il va être question.
Donc si t'es une fille, tu dois savoir. Parce que je voudrais... Enfin, j'aimerais... Comment on fait pour plaire à un garçon ?
Finit-elle par lâcher. Je manque presque d'éclater de rire avant de me raviser devant le visage plein d'espoir d'Alban. C'est une question dans l'absolu ? Lui demandai-je décidé malgré tout à la taquiner un peu.
Eh bien, non, c'est-à-dire qu'il y a ce garçon dans ma classe. Et enfin, tu vois,
bredouille-t-elle. Tu l'aimes bien ? Terminai-je à sa place. Je repense à cette séance de répétition du rôle de Juliette et au discours d'Alban, à sa vision de l'amour et... Je ne peux m'empêcher de sourire. La vérité, c'est que tous les discours du monde s'écroulent quand l'amour s'en mêle.
Ouais, mais je sais pas si c'est pareil pour lui. Il me parle pas beaucoup, en fait. Je suis trop moche, sûrement.
Toi, moche. Manifestement, le miroir de ta chambre doit être défectueux. Il va falloir le changer d'urgence. Tu es une superbe jeune fille. Drôle, pleine d'esprit et bourrée de talent. Bref, tu as déjà tout ce qu'il faut pour plaire aux garçons, crois-moi. Mais hélas, à ton âge, les filles et les garçons ne sont souvent pas sur la même longueur d'onde niveau sentiment. Là où les filles commencent à s'intéresser au sexe opposé, les garçons, eux, ne voient encore que par les copains. Il n'y a pas grand-chose à y faire.
Ça craint,
bougonne-t-elle. Comme tu dis, approuvai-je en m'asseyant à côté d'elle. Si tu es un peu patiente, ça devrait vite changer. Et bientôt, avec les garçons, tu n'auras plus que l'embarras du choix. Au grand désespoir de ton père, ajoutai-je avec un clin d'œil.
Tu crois ?
Demande-t-elle en posant sa tête sur mon épaule. J'en suis certaine. Et comment s'appelle le jeune homme qui me vaut cette question ?
Nathan.
Eh bien, ce Nathan a beaucoup de chance que tu t'intéresses à lui. Affirmai-je en entourant affectueusement ses épaules de mon bras.
Roxane ?
Reprend Alban après quelques secondes de silence.
Je voulais aussi te dire que... Je suis heureuse que tu fasses partie de ma vie. Papa est génial, hein, mais...
C'est un homme.
Voilà. Il fait de son mieux, mais bon, il comprend pas grand-chose aux trucs de fille. C'est chouette que tu sois là. Tout est mieux depuis.
À ton service, ma belle, répliquai-je crânement, histoire de camoufler l'émotion qui m'étreint.
Et puis aussi, j'aime pas quand tu pars pendant longtemps,
poursuit-elle.
Je voudrais pouvoir te parler tout le temps. J'espère...
hésite-t-elle.
J'espère que tu vas devenir ma belle-mère. Je sais bien que je remplacerai jamais Meryl, mais je me disais...
Belle-mère. Ce mot me cueille par surprise et me bouleverse. L'espace d'un instant, je me sens coupable, comme s'il représentait une trahison pour ma fille. Je ne peux retenir mes larmes. Mais comme chaque fois que j'en ai eu besoin ces derniers temps, la voix de Meryl surgit dans mon esprit.
Ne pleure pas, maman. Je sais que tu m'aimes et que rien ne changera ça. T'as été la meilleure de toutes les mamans. Tu seras la meilleure de toutes les belles mamans. Je t'aime très fort. Cette voix résonne en moi de manière si nette. Pendant des mois, j'ai tout fait pour mettre son décès à distance, cherchant presque à en occulter la réalité. Sauf que personne n'a de contrôle sur ses souvenirs et que ceux-ci se manifestent avec d'autant plus de violence qu'on tente de les évincer. Alors qu'au final, sentir aujourd'hui sa présence agit comme un baume sur la plaie. « Roxane, ça va pas ?» s'inquiète Alban. « Oh, mais tu pleures, c'est ma faute. Je voulais pas te faire pleurer, je voulais juste... si je pleure, c'est pas... C'est parce que ça me touche que tu veuilles de moi pour belle-mère. C'est vrai? Ça veut dire que t'es d'accord? Que tu vas te marier avec papa et rester avec nous tout le temps? S'enthousiasme-t-elle aussitôt. Je n'ai pas dit... De toute façon, pour ça, il faut être deux. Compte sur moi pour convaincre papa. Je vais aller lui demander tout de suite. Et avant même que j'aie le temps de protester, l'adolescente s'est précipitée vers la porte et a quitté la suite. Je l'entends crier dans le couloir. « Elle a pas dit non! Elle a pas dit non! Je vais avoir une belle-mère! Je vais avoir une belle-mère !» Je devine que tout cela est accompagné de ces fameux mouvements de bras qu'elle a essayé de m'apprendre et que j'ai été incapable de reproduire. Je souris malgré moi. Après qu'une petite chienne tenace m'a amenée à l'adopter, je viens de me faire piéger par une adolescente. Est-ce la vie qui reprend ses droits? Ou Meryl qui me protège. Apaisée, je lui murmure encore. Je t'aime, Meryl. Et pour toujours.